Vous écoutez Europe 1, il est pratiquement 12h30 et c'est le journal de la mi-journée avec vous François Claus.
Bonjour Johanna, bonjour à toutes, bonjour à tous. Armée, police, gendarmerie à sommet exceptionnel, sécurité exceptionnelle. Oui, Biarritz sera cadenassé par plus de 10 000 hommes pendant 3 jours. Nous vous donnerons tous les détails dévoilés ce matin par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui joue gros sur ce défi sécuritaire avec Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Ce fut une image passée quasi inaperçue dans le week-end du foot en France. Et pourtant, c'est une première. Un match interrompu pour des slogans homophobes, scandés depuis les tribunes. L'arsenal réglementaire est-il encore adapté à notre ère du temps? Très clairement non. Enquête de Julien Froment du service des sports d'Europe 1 dans ce journal. L'actualité de ce mardi 20 août, c'est aussi le référendum contre la privatisation d'ATP qui patine, les ventes de cognac dans le monde qui explosent, et puis ces drôles de sangliers qui envahissent Berlin et qui relancent, oui vous avez bien entendu, la chasse à l'arc dans la ville. Comme tous les midis, notre conseil de lecture du jour, nous irons tiens justement à Berlin, mais du temps où il y avait encore un mur, et notre étape quotidienne au cœur de la France estivale pour une plongée dans une terre aussi rude que sublime, le Niolou Corse. Sans oublier bien sûr la météo du jour. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour François, bonjour à tous.
Et on peut parler d'un arc là aussi orageux qui va des Pyrénées jusqu'aux Alpes.
Absolument, Valérie. Et l'Ariège qui est toujours en vigilance pluie et inondation. Et à la mi-journée, ces pluies les plus intenses qui s'étendent de l'est des Pyrénées vers le massif central, le nord de Rhône-Alpes et la Franche-Comté. C'est plutôt ensoleillé sur le reste du pays comme prévu. Les maximales sont comprises entre 19 et 23 degrés sur la moitié nord, entre 23 et 26 au sud, avec des pointes à 31 sur l'extrême sud-est.
Votre météo complète à 12h58, tout à l'heure Valérie, 13h, le meilleur de la France qui bouge avec Elisabeth Assayag.
Europe 1.
Alors je sais, ça va être un peu déprimant pour ceux qui sont encore en vacances, mais c'est pourtant le moment de poser cette question. Savez-vous combien en moyenne vous allez dépenser pour votre fils ou votre fille qui entre cette année en 6e ? Réponse, 195,58 €. C'est précis et c'est la traditionnelle estimation de l'association Famille de France qui a fait les comptes ce matin. 195 €, une hausse estimée à presque 1% par rapport à l'année dernière, par le président de Famille de France, Charlie Hay, qui pointe notamment cette année la hausse du prix des fournitures. Une calculette, par exemple, a doublé de prix en un an. Charlie Hay, qui au micro de Johanna Chabas, va vous donner quelques conseils pour tenter d'atténuer ce coût.
Ce qu'on demande nos familles et donc à nos enquêteurs, c'est de privilégier pour les cartables, parce que c'est le point le plus cher dans ces fournitures-là, quelque chose qui soit durable, donc qui puisse être réutilisé. Que peut-être aussi faire des achats par lot, hein, quand une famille a plusieurs enfants avec des âges différents. Je ne sais pas, un sachet de gomme par exemple. Hein, chacun pourra avoir sa gomme ou sa paire de gomme pour l'année. Ce qui serait bien aussi, c'est que la liste type des matériels, des fournitures scolaires liées une TVA à taux réduit, parce que là, elle est classiquement à 20%. Ça aiderait les familles qui n'ont pas beaucoup de ressources de pouvoir effectivement un petit peu mieux s'en sortir.
Le président de Famille de France, Charlie Hay, au micro de Johanna Chabas. Et ça tombe bien, c'est précisément aujourd'hui que commencent à être versées les fameuses allocations de rentrée de la CAF. 3 millions de ménages devraient pouvoir en bénéficier, entre 368 et 402 euros en fonction des revenus et de l'âge des enfants. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette allocation, dans ce qu'est la situation sociale de la France de 2019, elle fait du bien. C'est ce qu'a constaté en reportage Caroline Baudry.
Awa sort de cette CAF de Paris soulagée. Elle va percevoir environ 400 € pour financer la rentrée au lycée de sa fille aînée. Elle constate, comme d'autres parents, que plus les enfants grandissent, plus les fournitures sont nombreuses et chères.
Il y a ma fille qui m'a dit que ça coûte déjà 80 €. La calculatrice que je dois lui acheter. Oui, ça sera compliqué sans cette aide. C'est vraiment indispensable. Ouais.
Indispensable pour des parents qui doivent acheter des cahiers et des stylos en double, voire en triple pour tenir toute l'année. Et puis ils doivent aussi en profiter pour rhabiller leurs ados. Catherine élève seule son fils de 18 ans qui entre en études supérieures.
C'est pas évident, surtout quand il rentre à l'âge adulte comme ça. Bon, mais il n'y a pas que les fournitures scolaires, il y a aussi les vêtements. Cette génération, ils aiment porter beaucoup de baskets. Bon, les baskets, c'est bien, mais c'est pas donné. Hein. Et des jeans, et puis voilà.
L'occasion aussi de faire plaisir à ses enfants avec autre chose que des gommes ou des dictionnaires.
Un reportage signé Caroline Baudry. On notera que Famille de France milite aujourd'hui pour une meilleure répartition de cette allocation de rentrée. En donner plus dans le secondaire et peut-être un petit peu moins dans le primaire.
Europe 1, il est 12h34, vous écoutez Europe 1 et c'est votre journal de la mi-journée, François Claus.
Et quand les 7 plus grands du monde se retrouvent sur le même lieu pendant 2 jours, cela nécessite un dispositif de sécurité tout à fait exceptionnel. Si on ajoute à cela les fantômes des violents incidents du passé, Gênes 2001 avec un mort, et plus récemment encore le G20 de Hambourg il y a 2 ans, on mesure très bien ce qu'est le défi sécuritaire à Biarritz dans les prochaines heures. Bonjour Salomé Legrand.
Bonjour.
Du service police-justice d'Europe 1. Salomé, on a fait les comptes, un peu plus de 10 000 hommes au total vont donc quadriller dans ces prochaines heures Biarritz et sa région.
Et oui, parole de haut gradé, il est difficile de faire plus large échantillon de forces publiques sur une même bande de territoire. On a sur zone, depuis l'armée de l'air jusqu'à la police secours, en passant par les services d'intervention spécialisés comme le RAID ou le GIGN et même la gendarmerie. À cheval. Alors le plus gros des troupes réside dans les quelques 90 unités de forces mobiles, soit 6000 CRS et gendarmes pour qui hôtels, campings, mais aussi villages, vacances environnants ont été réquisitionnés. C'est une mobilisation équivalente à certains samedis de gilets jaunes, mais concentrée sur une seule région. 3 matchs de Ligue 1 ont carrément été reportés pour libérer des effectifs. Autre organisation repiquée des dispositifs gilets jaunes, les fameuses BRAV, Brigades de répression de l'action violente, très mobiles pour interpeller d'éventuels casseurs.
Et il faut, Salomé, ajouter l'armée, et que dis-je l'armée ? Les 3 armées.
Absolument, air, terre et mer, avec tout un arsenal, un dispositif anti-drone, des radars tactiques, ça c'est contre l'intrusion éventuelle de parapentes et autres ULM, les avions Rafale de Mont-de-Marsan en alerte, les hélicoptères de défense aérienne avec à leur bord des tireurs d'élite. La sécurisation du ciel, c'est un gros enjeu, notamment pour l'arrivée de Donald Trump en Air Force One. Le plan de vol est tenu ultra secret. Encore faut-il trouver une piste assez longue pour le faire atterrir. Il est possible que le président américain finisse le trajet en hélico depuis Bordeaux-Mérignac ou bien depuis le Pays Basque espagnol.
Les précisions de Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Les forces de l'ordre, Salomé, vont aussi garder un œil un peu plus au sud, à 30 km vers Hendaye et Irún, à la frontière espagnole, où quelques 12 000 militants altermondialistes pacifistes venus de toute la planète se sont donné rendez-vous pour l'autre sommet, l'anti-G7, sur place pour Europe 1. Claudia Bertram.
Bienvenue au contre-sommet, peut-on lire en 4 langues à l'entrée du campement. Les militants arrivent au fur et à mesure, une fois sa tente plantée. Nicole vient prêter main forte pour tout installer.
Ça peut être des panneaux, ça peut être aller mettre les panneaux en place pour que les gens ne se perdent pas, participer à nourrir les gens, installer des toilettes sèches, installer des douches solaires. Voilà, il y a tellement de choses à faire.
Autour de l'espace central, un petit atelier pour bricoler, une zone cantine et un coin gilet jaune. Les militants comme Jean-Pierre veulent montrer qu'une autre société est possible.
Un autre monde, plus juste, socialement, économiquement, et une prise de conscience écologique.
Un contre-sommet qui se veut ouvert et pacifique. Christine fait partie de l'une des plateformes organisatrices.
C'est vraiment quelque chose de très très solidaire qui se met en place. Nous, on a tout fait de façon à ce que ça soit fluide. On a mis des systèmes de bus en route. Dans Hendaye, on ira à pied. Il y a tout un système de vélo qui est mis en route pour encombrer le moins possible la ville d'Hendaye.
Le camp de vie devrait être fin prêt d'ici demain pour l'ouverture officielle du contre-sommet. Urugne, Claudia Bertram, Europe 1.
À suivre dans votre journal, on va parler d'ADP. François.
ADP, l'aéroport de Paris, doit-il être privatisé ? Faut-il un référendum d'initiative partagée ? C'est une première en France, mais elle patine. On va le voir dans un instant.
Il est 12h40, la suite de votre édition de la mi-journée avec vous, François Claus.
C'était l'une des grandes revendications, souvenez-vous, des Gilets jaunes. Un référendum d'initiative populaire, devenu depuis le référendum d'initiative partagé. Il est testé grandeur nature autour de cette question de la privatisation ou non future d'aéroports de Paris. Mais voilà, le constat est là, mais il ne mobilise guère. Alors certes, l'échéance est encore lointaine. On a encore jusqu'au 12 mars prochain pour signer sur Internet, mais il faudra à l'arrivée 4 300 000 signatures pour obtenir ce référendum. Or, à l'heure où nous parlons, moins de 700 000 Français ont soutenu le principe de ce référendum, Mathieu Bock.
Cette collecte avait pourtant démarré en trombe. Alors que 17 000 signatures sont nécessaires chaque jour pour atteindre l'objectif, les partisans ont réussi à en collecter jusqu'à 26 000 par jour. Mais depuis, ce chiffre s'est effondré pour atteindre péniblement les 3 000 signatures quotidiennes. On s'y attendait, explique Joseph Guilardi, l'ancien maire UMP de Breil-sur-Roya, l'une des communes les plus mobilisées. L'été a étouffé la mobilisation, dit-il.
Pendant les vacances, c'est beaucoup plus difficile parce que les gens partent. C'est un peu délicat de faire voter des gens parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas voter parce que la personne qui tient l'ordinateur n'est pas de leur bord politique. Or qu'eux seraient favorables.
Pourtant, tous les partis d'opposition se sont mobilisés contre cette privatisation. Au Parti communiste, on prédit même un regain de signatures à la rentrée, explique Fabien Roussel, son secrétaire national.
La fête de l'UMA sera un rendez-vous important. Nous allons pouvoir toucher des dizaines de milliers de nos concitoyens et leur demander de signer la pétition. Mais aussi, ce sera l'occasion d'annoncer les prochains rendez-vous avec d'autres forces politiques de gauche et de droite pour dire nous ne voulons pas la privatisation d'ADP.
Le PC espère franchir le cap du million de signatures en septembre, bien loin encore des 4 300 000 nécessaires qui doivent être atteints au plus tard le 12 mars prochain.
Merci Mathieu Bock. Les Français en sont très fiers, mais finalement ils n'en boivent que très peu ou quasiment pas si on compare aux Américains ou aux Chinois. Et pourtant c'est une des marques de fabrique aux yeux des étrangers qui incarnent le mieux le Made in France, une forme de savoir-vivre. Nous parlons là du cognac. Bonjour Olivier Samin.
Bonjour François.
Du service économie d'Europe 1. Très clairement, Olivier, les ventes de cognac ont battu des records cette année.
Oui, 211 millions de bouteilles expédiées au cours de la campagne 2018-2019 qui s'est achevée il y a 3 semaines. C'est une augmentation de 2,5% en volume et de près de 7% en valeur. Les ventes de cognac ont totalisé près de 3,5 milliards d'euros cette année et représente à elle seule un quart des exportations françaises de vins et spiritueux. Les plus gros consommateurs de cognac sont toujours les Américains, avec 45% du cognac bu dans le monde. Le succès ne se dément pas, notamment dans la communauté noire américaine, qui fait de cet alcool quasiment un élément d'identification promu depuis plusieurs années par les rappeurs. Le deuxième marché, c'est Singapour, juste devant la Chine. Pour répondre à tous ces débouchés, les producteurs de cognac ont commencé par pousser le rendement de leurs vignes. Mais, comme l'explique Christophe Forget, vice-président de l'interprofession, aujourd'hui, ça ne suffit plus, d'où la décision de replanter du vignoble, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs décennies.
Là, on est arrivé à un optimum. On ne peut plus produire davantage à l'hectare, dans la mesure où il faut également aussi avoir en tête le respect de l'environnement. Et donc, le deuxième levier, eh bien, c'est accroître les superficies. Alors, on va aller sur un accroissement de la superficie de l'ordre de 10 000 hectares, ce qui fera passer le vignoble de 76 000 hectares à 86 000 hectares. Mais tout cela doit se faire dans le temps, puisque c'est un plan pour 3 ans. Nous avons déjà commencé l'année passée. Puisque les perspectives du cognac sont toujours bonnes, eh bien, on poursuit ce plan. On le pilote véritablement au jour le jour.
Alors les premières plantations ont donc déjà eu lieu, mais la nature a besoin de temps. Ce n'est que dans 4 à 5 ans que les nouvelles surfaces plantées produiront du raisin pour répondre à la demande.
Et on note, Olivier Samin, l'impact des rappeurs donc sur la balance commerciale française, conséquence inattendue.
Europe 1, il est 12h44.
C'est l'une des conséquences du réchauffement climatique et de la destruction de notre nature. Vous l'avez peut-être constaté aux abords de vos propres villes, mais oui, de plus en plus d'animaux sauvages se rapprochent de nous pour venir se nourrir. Situation qui atteint son paroxysme dans cette très grande et très verte ville de Berlin, où l'on a carrément fait appel à des chasseurs supplémentaires pour enrayer cette invasion de sangliers dans la ville. Correspondance Hélène Kohl.
Autour de Berlin, les chasseurs ont abattu 86 000 sangliers l'an dernier. Un record qu'ils devraient facilement battre cette année. Klaus est l'un d'entre eux. Avec son fusil, il prend sa mission très au sérieux.
On ne lâche rien. Il faut réduire la population afin que les maladies ne se répandent pas.
Car les sangliers peuvent par exemple transmettre la peste porcine aux élevages de la région. Il faut les tenir éloignés. Alors Klaus a appris à chasser hors des forêts.
Dans les champs ou les zones d'habitation, là il faut bien vérifier si la zone de tir est dégagée, s'il y a de quoi stopper la course de la balle.
La plupart du temps, le moindre coup de feu est impossible. Bernd est le maire d'une petite commune collée à Berlin, où les sangliers se promènent sur les trottoirs en pleine journée.
Ils ne sont plus du tout farouches parce qu'ils savent que les chasseurs ne peuvent pas tirer au fusil dans les rues. Nous devons trouver une méthode pour qu'ils comprennent que l'être humain représente un danger, par exemple avec des arcs et des flèches.
Il a déjà fait une demande officielle, l'autorisation de chasse à l'arc sur sa commune et espère décrocher cet hiver le feu vert des autorités. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
À suivre dans votre édition de la mi-journée, on va parler football.
Et on va parler football et homophobie surtout, avec une image très, très forte qui est passée peut-être un peu trop inaperçue ce week-end.
Restez avec nous. Il est 12h48, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous, François Clos.
C'était vendredi soir lors d'un match du championnat de France de Ligue 2 entre Nancy et Le Mans, un match qui a été brièvement interrompu par l'arbitre. Non, pas question là de hooligan, pas question de grosses blessures, pas de cris racistes, mais bel et bien des injures homophobes. Et c'est tout simplement une première en France. Bonjour Julien Froment.
Bonjour François.
Du service des sports. Et Julien, il se trouve que vous étiez à Rennes dimanche soir pour le fameux match face au PSG. Là, on n'a pas vu d'interruption. Et pourtant, vous confirmez, là aussi, émaner des tribunes, des slogans très clairement homophobes.
Oui, pendant la rencontre, on a pu entendre très distinctement des paris. Paris ont, je vous laisse deviner la suite, hein, descendre d'une tribune du Roazhon Park. Alors, vous l'avez dit, François, autant vendredi dernier en Ligue 2, l'arbitre, Mehdi Mokhtari, avait appliqué le règlement, c'est-à-dire arrêté brièvement le match entre Nancy et Le Mans pour des champs similaires. Autant Anthony Gauthier, l'arbitre de Rennes-PSG, lui n'a pas jugé nécessaire de stopper cette rencontre diffusée en prime time dimanche soir. Ces deux dossiers vont toutefois passer par la case commission de discipline de la Ligue le 28 août prochain. On me l'a confirmé justement du côté de l'instance. Les sanctions sont donc à prévoir pour Nancy et pour Rennes.
Alors Julien, c'est une évidence, mais c'est l'arsenal disciplinaire n'est plus adapté à ce que très maladroitement en son temps, la présidente de la Ligue avait qualifié de, je la cite, « folklore des stades ».
Oui, car pour le moment, on sanctionne les chants homophobes comme on sanctionne l'usage de fumigènes, amende, huis clos partiel, travaux d'intérêt général pour le ou les fautifs. Insuffisant pour certains. Olivier Rouillet, ancien footballeur professionnel, premier à avoir fait son coming out, s'est exprimé chez nos confrères de l'équipe. Les fermetures des tribunes, les sanctions financières, c'est de la connerie. Il faut que le match soit perdu. La fermeté peut être le seul moyen justement de réduire au silence les chants homophobes dans les stades de France.
Et on avait vu le combat qui avait été mené contre les cris racistes dans les stades et qui avait commencé à payer effectivement avec une campagne très forte. Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1. L'heure de notre carte postale sonore de l'été. Deuxième étape aujourd'hui de notre voyage en Corse, entamée hier par Romane Hockey. Elle était dans le Cap tout au nord. Elle a quitté le Cap pour venir dans une des régions les plus sauvages de Corse, celle des cochons, des sangliers qui traversent la route, de ces magnifiques forêts de châtaigniers, de ces aiguilles rocheuses à 2700 mètres d'altitude. Bienvenue dans le Niolou.
Au cœur de la Corse, entourée par les plus hauts sommets de l'île, la région du Niolou. Une terre de bergers où la tradition perdure. À 25 ans, Jean-François s'occupe d'une soixantaine de brebis.
Mais là, on descend la bergerie, on va créer. Je traite à la main, je traite comme ça, à l'air libre. C'est la poésie de la vie, ça.
Est-ce que je pourrais essayer ?
Bien sûr.
Il y a un tout petit filet qui sort.
Mais c'est un peu difficile au début.
Jean-François s'est installé il y a 6 ans. Il s'occupe seul de son troupeau et fabrique aussi du fromage frais, de la tomme et le fameux brooch. Tout ça, 7 jours sur 7.
Jamais stressé, j'ai pas le temps, je sais pas ce que c'est. Ça me reconnecte avec le passé et mes racines. Et le rapport avec le village, avec les anciens, tu vois, tout ça. La façon de traire, de faire le fromage, on parle pas en siècle, mais en milliers d'années là.
Un savoir-faire qu'il a appris de l'autre côté du lac, dans le village de Korcha. C'est là que vit Lucie, 77 ans.
Après, on lui a appris à faire le fromage, la brousse. Bah, tout le monde était berger. Hein. Après, non, les petits-enfants, c'est autre chose. Ils ont pris autre direction.
C'est plus un endroit où ils viennent vivre.
Ils se meurent. Le village se meurt. Il n'y a que Jean-François qui a pris la suite.
C'est un bon berger ?
Il est jeune. Hein. Ça va rentrer tout doucement. Hein. C'est en vieillissant qu'on fait des bonnes choses, non ?
Mais déjà, les gestes assurés du jeune homme impressionnent les touristes de passage. Et forcément, quand on parle de fromage...
Bon, vous voulez goûter ?
Allez, hop !
Il est fruité, très frais, un peu comme une tomme de Savoie, mais pas avec sa fermeté. C'est très très bon.
Contrairement à d'autres fromages très forts qu'on a pu goûter, là au petit-déj, c'est pas mal.
Ça marche bien, un petit goût de brebis sympa.
Il irait bien avec un vin rouge.
Pensez aussi à la confiture de figues. En tout cas, les fromages du Niolou ont encore de beaux jours devant eux. 60 nouveaux éleveurs s'installent en Haute-Corse chaque année.
Elle a de la chance, Romane Hockey, à arpenter les routes de Caliste et la plus belle, comme disaient les Grecs. En Corse, et on retrouvera Romane, bien sûr, demain. Tous ceux qui, au cinéma, ont aimé Les films Goodbye Lénine ou La vie des autres vont apprécier le livre sélectionné aujourd'hui par Stéphane Place dans les rayons de la librairie Mola de Bordeaux. Un livre qui va nous faire revivre un bien étrange pays aujourd'hui disparu. Oui, la RDA, République démocratique allemande, ce pays emporté par l'histoire et la chute du mur, que nous fait revivre l'historien Nicolas Offenstadt dans un très joli livre au titre aussi réaliste que poétique, Le pays disparu.
230 sites abandonnés de l'ex-RDA que cet historien a regardé sous toutes les coutures. Muni de guides de l'époque, il sillonne le pays disparu, c'est le titre de l'ouvrage. Une exploration urbaine à la recherche des objets, des archives, parfois oubliés, à même le sol des usines. Dans ces lieux perdus, Nicolas Offenstadt va de découverte en rencontre et nous permet de cerner ce qui faisait le quotidien des Allemands de l'Est. Car si la République démocratique d'Allemagne n'a disparu qu'en 1990, après la chute du mur de Berlin, la réunification du pays a accéléré l'effacement des traces de cette société, d'où cette démarche originale pour les retrouver et les mettre en perspective. Libraire chez Mola, Jean-Marc Bourlard vous conseille cette lecture.
Le quotidien à travers des archives qu'il a trouvées un petit peu partout, dans les cantines, dans les entreprises, dans les hôpitaux, donc vraiment beaucoup d'endroits abandonnés, des sculptures, des mosaïques, donc vraiment c'est de l'histoire politique, mais voilà l'histoire au quotidien de l'Allemagne de l'Est.
Universitaire, l'auteur de ce livre raconte notamment ses balades chez les brocanteurs de l'ex-Allemagne de l'Est, où il retrouve les anciennes marques des produits alimentaires, des petits pois périmés depuis longtemps, mais qui témoigne de ce qu'était ce pays disparu, un pays désormais à l'horizontale, sur des tréteaux, écrit Nicolas Offenstadt, qui a multiplié aussi les échanges, les discussions.
Il m'est arrivé de manière étonnante, par exemple à Magdebourg, de discuter dans une immense usine de machines-outils abandonnée avec un Allemand de l'Est qui faisait du vélo. Il s'est arrêté, il est venu me voir, et puis on a commencé à parler de Magdebourg à l'époque de la RDA. C'est un État socialiste qui a été remplacé par l'Allemagne unifiée, donc une Allemagne à la fois libérale, démocratique et capitaliste, et donc qui a en partie voulu tracer un trait définitif sur tout ce qui rappelait des formes d'économie socialiste. Et du coup, on laisse de manière assez incroyable parfois toutes les archives comme ça dans des bâtiments qui sont ouverts à tous les vents. Les gens évidemment ont du mal à assumer ou accepter que toute une partie de leur vie soit considérée comme nulle et non avenue uniquement d'avoir été des sujets passifs d'un régime qui les aurait écrasés. Les Allemands de l'Est ont aussi envie qu'on raconte d'autres histoires de leur propre passé.
Et au fil des pages, on comprend l'importance de ces archives qu'on laisse pourrir dans de vieux bâtiments, pas juste des papiers administratifs, mais bel et bien des empreintes de vie du pays disparu restitué dans cet ouvrage.
Merci Stéphane Place pour ce joli conseil. On vous retrouvera demain pour un autre livre, Stéphane.
À suivre sur Europe 1, le point sur les prévisions météo avec Valérie Darmon. Et puis à 13h, dans Le meilleur de la France bouge, Elisabeth Assayag nous parlera des inventions françaises pour tenter de réduire au maximum l'empreinte écologique de nos avions. A tout de suite.
Ma chère Valérie Darmon, patiente encore un petit peu là sous la dernière vague orageuse et vous nous le dites, l'été revient.
Ah, et l'été revient demain, il dure au moins jusqu'à dimanche. Lundi, pas de pluie non plus d'annoncer d'ailleurs lundi prochain, mais des nuages de nouveau. Mais alors d'ici là, ça va être grand beau partout, surtout il n'y a pas de bémol. Retour annoncé du soleil sur l'ensemble des régions avec tout juste quelques ondées orageuses très vagues sur les Alpes. Bretagne, Côte de la Manche jusqu'au détroit du Pas-de-Calais, la grisaille va se dissiper peu à peu demain matin pour les c'est la place à un ciel voilé de nuages d'altitude, s'il vous plaît. Sur le reste du pays, l'impression est au beau temps. La journée se déroule sous un ciel bien dégagé, à peine voilé là aussi par moments de nuages assez hauts dans le ciel. Petit bémol, les cumulus qui bourgeonnent sur les massifs pyrénéens, alpins et corses. Des averses qui sont possibles sur les Alpes en particulier, avec très très localement un coup de tonnerre et encore... Franchement, rien de bien méchant. Les températures du matin sont encore un petit peu fraîches pour la saison, pas plus de 8 à 13 degrés en général, 17 à 21 sur le pourtour méditerranéen, autour de 20 à 23 en Corse. Il faut attendre que le soleil se réinstalle pour que ces températures remontent. Ce sera à partir de jeudi. Les maximales de demain voisinent de 20 à 22 degrés sur les côtes de la Manche, 23 à 29 en général, proche de 30 en Provence et jusqu'à 33 dans le sud de la Corse. Je vous donne quelques valeurs. Pour demain après-midi, 24 annoncés à Paris, 25 à Tarbes et à Strasbourg ainsi que Lyon, 26 à Bourges et Auxerre, 27 à Carcassonne et Toulouse, 29 à Embrun, à Brive-la-Gaillarde et à Bordeaux, 31 à Manosque, 32 à Montpellier. Pic de chaleur le week-end prochain sous un plein soleil.
On vous donnerait l'antenne pendant une heure pour d'aussi
bonnes
nouvelles.
J'adore, ça y est. Annoncer le soleil. Ben,
finalement, c'est assez classique. Hein. Perturbation du 15 août, c'est quand même un des grands classiques de la météo.
Rien qui revient. De neuf. Effectivement, de ce côté-là, il y a moins d'août, plus orageux effectivement qu'un mois de juillet.
On va en profiter. Merci Valérie Darmon.
Et on rappelle les titres de ce mardi 20 août, François.
195,58 €, c'est le coût moyen d'une rentrée scolaire pour un élève entrant en 6e. C'est Familles de France, l'association qui a fait les calculs et révélé ce chiffre ce matin. Une rentrée estimée plus chère que l'année précédente, plus 1%. Ça tombe bien, c'est cette semaine que seront versées les fameuses allocations de rentrée de la CAF. 3 millions de ménages devraient pouvoir en bénéficier, entre 368 et 402 euros en fonction des revenus et de l'âge des enfants. Dispositif de sécurité exceptionnel pendant 2 jours autour de Biarritz. Le ministre de l'Intérieur l'a confirmé ce matin pour le G7. Ce sont un peu plus de 10 000 hommes, police, gendarmerie et les 3 armées qui vont être mobilisés pendant 2 jours pour la protection des chefs d'État des 7 plus grands et plus riches pays du monde. La Russie ce matin s'inquiète d'une escalade des tensions militaires après l'annonce par les États-Unis de leur premier test de missile de portée intermédiaire depuis la guerre froide, conséquence, on le sait, de la fin du traité de désarmement nucléaire. Et puis vous l'avez entendu dans le journal, mais on va vers un durcissement de l'arsenal législatif autour des slogans homophobes qui émanent des tribunes de football.
Merci François Clos, on vous retrouve tout à l'heure 18h pour votre grand journal du soir. Europe 1, il est 13h et vous retrouvez La France Bouge.